Épilogue. Il fallut 8 jours pour évacuer tous les cadavres de Blood Mountain. Chacun des corps fut précautionneusement déposé sur un drap propre, puis enveloppé et descendu de la montagne sur une civière spécialement prévue à cet effet. Une équipe d'anthropologues judiciaires débarqua pour faire face à la charge de travail et s'installa dans la morgue du comté, où elle pouvait s'extasier à voix basse sur l'état de conservation extraordinaire de ces restes momifiés. Ce n'était pas souvent qu'on retrouvait des corps restés longtemps suspendus en forêt. Cela ouvrait de fantastiques perspectives d'études de cas. Les familles des disparus furent informées de la procédure à suivre pour fournir des échantillons d'ADN qui seraient comparés à ceux des dépouilles. Une base de données fut établie, les tests commencèrent. Il fallait compter 6 à 9 mois avant d'avoir les résultats. Ginny Jones donna son ADN en affirmant vouloir identifier la dépouille de sa mère. Kimberly n'était pas sûre qu'elle le ferait. Quelle importance Ginny avait-elle accordée à la mort de sa mère? En tout cas, ça ne l'avait pas empêchée de former une alliance perverse avec un pervers. Le procureur retint 6 chefs d'accusation pour complicité dans une affaire de meurtre contre Ginny. Pour lui, elle avait sciemment attiré d'autres prostituées dans un piège mortel et participé à l'enlèvement d'un enfant de 7 ans, Joshua Ferris, alias Scott. Ginny joua la carte de la victime. Elle avait été kidnappée par Dean et Cara, violée, molestée, torturée. À un moment donné, elle avait dû l'aider, c'était sa seule chance de survie. Écoutez donc les cassettes, ces enregistrements interminables de tout ce qu'il avait fait, y compris à sa mère. Bizarrement, le seul enregistrement qui subsistait était celui que Kimberly avait fait du premier appel anonyme d'Aaron. Tout le reste semblait avoir été détruit dans l'incendie de la maison de Dean et Cara. Mais les corps restaient. Minces silhouettes momifiées qui disaient mieux que des mots ce dont un seul individu avait été capable. Sal avait pris un congé exceptionnel. Kimberly l'avait appelé à 2 reprises, il n'avait jamais rappelé. Elle apprit par la bande qu'il passait beaucoup de temps avec sa mère. Le tollé avait été tel dans les premiers temps, quand des détails sensationnels sur cette série de meurtres s'étalaient partout en gros titres, que sa mère et lui avaient dû se retirer du monde. D'après la rumeur, Sal avait rempli des demandes pour que des tests génétiques soient pratiqués sur le bébé de Ginny. Si l'enfant était de Dean et Cara, sa mère et lui comptaient en demander la garde exclusive. Kimberly se demanda si cela leur suffirait, ou s'ils resteraient éveillés nuit après nuit, dans la crainte qu'un drame se produise au bout du couloir. La vie continua. Harold se remit de sa blessure, retourna au travail sous les hurrahs, avec une médaille du gouverneur. Lorsque la brigade de relevé d'indices de Kimberly lui offrit sa propre paire de chaussures Limmer sur mesure, il rougit comme une jeune fille. Et Rachel le serra si fort dans ses bras que les parieurs spéculaient déjà sur la date du mariage. Et pendant ce temps, Kimberly grossit, énormément, au point de ne plus voir ses pieds. Comme elle l'avait prédit, Mac dut lui lasser ses chaussures. Ce qui n'arriva plus si souvent, étant donné qu'elle était officiellement en congé. 2 semaines avant terme, il lui fallut préparer une chambre d'enfant dans leur appartement de Savannah pendant que Mac faisait de longues journées à son nouveau poste pour essayer de se mettre dans le bain avant la naissance du bébé. Kimberly fit donc des histoires à propos de froufrous en Vichy, de pochoirs en forme de nounours, et toutes ces choses qu'une femme comme elle avait autrefois jugées ridicules, mais qui étaient maintenant devenues le centre de tout son être. Elle repassa les rideaux, épousseta les ventilateurs et lava le dessus du réfrigérateur. Après quoi, elle acheta une armoire à pharmacie et exigea que Mac l'installe le soir même parce qu'il était hors de question qu'elle donne la vie alors que leur petite réserve de médicaments était encore stockée dans un tiroir de la salle de bain à portée d'un bébé. De temps à autre, quand elle n'était pas en train de faire le nid avec la frénésie irrépressible d'une femme enceinte de 9 mois, des idées lui traversaient la tête. Elle tombait sur une araignée de jardin et passait l'heure suivante à penser à Dean et Cara, au petit garçon qu'il avait été et à l'homme qu'il était devenu. Et elle se souvenait d'Aaron et de son expression avant d'appuyer sur la détente. Il s'avéra qu'Aaron s'appelait Randy Cooper. Il avait été enlevé 10 ans plus tôt alors qu'il rentrait à pied de son école de Decatur. La famille avait réclamé le corps et sa sœur, Sarah, 22 ans, à présent étudiante en droit à Harvard, était revenue pour l'enterrement. Au nom de la famille, elle avait remercié les quelques voisins et policiers rassemblés. Ils étaient heureux que cet enterrement leur permette de tourner la page. Ils savaient qu'ils avaient la chance de connaître ce moment qui, pour tant de familles, n'arrivait jamais. Et ils choisiraient, ce jour-là comme tous les autres, de conserver de Randy le souvenir du petit garçon heureux et gai qu'ils avaient connu, et non de la victime qu'il était devenu. Kimberly se demanda si Sal s'efforçait de faire le même choix. Jour après jour après jour, quelle image garder de son frère? Kimberly installa des verrous supplémentaires à toutes les fenêtres des chambres. Elle commanda une alarme avec une fonction d'appel des secours. Elle acheta une caméra de surveillance pour voir en permanence ce qui se passait dans la chambre de son bébé. Peut-être bien qu'elle était peureuse et névrosée, mais peut-être aussi que c'était ce dont avait besoin une femme qui travaillait dans la police et qui avait déjà enterré 2 membres de sa famille. Mac ne la contraria pas. Il la laissa faire et lorsqu'elle trouva le courage de parler, à la fois de sa peur dévorante et de son timide espoir, il prit le temps d'écouter. Une semaine avant terme, Kimberly commença à avoir des contractions. Avec Mac à ses côtés, et alors que Rainey et Quincy arrivaient en avion, elle donna naissance à une petite fille, Elizabeth Amanda McCormack. 3 jours plus tard, Mac et elle ramenèrent leur petite fille à la maison. Mac prit quelques semaines de congé, et ils passèrent des moments de bonheur à changer des couches ridiculement petites et à s'émerveiller devant 10 doigts et 10 orteils parfaits. Après bien des discussions, ils conclurent que la petite Elisa avait les cheveux bruns de Mac, mais le visage en triangle de Kimberly. Il allait de soi qu'elle possédait l'intelligence de sa mère, ainsi que la force de son père. Quant aux crises de colère, ils considéraient tous les deux que c'était l'autre qui avait transmis le gène. Mac reprit le travail, Kimberly resta à la maison et découvrit que ça allait. Pouponner n'était pas la condamnation à mort qu'elle avait redoutée, mais plutôt une nouvelle série de défis à relever. Elle pouvait s'en accommoder quelque temps, 6 mois, pensait-elle, 1 an peut-être, quelque chose dans ce goût-là. Elle prit donc son temps, serra fort sa fille contre elle, l'emmena en promenade dans le parc, se leva toutes les 3 heures, et berça son bébé au milieu de la nuit. Et pendant ces mois, la petite Elisa blottie sur la poitrine, Kimberly se dit que si la vie n'était pas parfaite, elle offrait au moins des instants qui, eux, frisaient la perfection. « Je t'aime, Elisa », jura-t-elle, et elle sourit en écoutant ronfler son nouveau-né. C'est framboise, mon parfum de glace préféré. Ma maman me l'a dit en m'en donnant le premier soir où je suis rentrée à la maison. J'ai hoché la tête comme si je me souvenais, et puis j'ai mangé tout le bol, en regrettant que ce ne soit pas du chocolat. Tout va revenir à la normale. C'est ce que tout le monde dit. J'ai de la chance. Je suis un rescapé. Quelque chose de terrible s'est passé, mais maintenant, tout va revenir à la normale. Je suis comme Pinocchio, impatient de découvrir un matin à mon réveil que je suis un vrai petit garçon. En attendant, je fais semblant de dormir sur mon lit, et non recroquevillé dessous, d'où je peux voir les gens entrer dans ma chambre sans être vu de personne. Je fais semblant de ne pas remarquer que mes parents ne me laissent jamais seule avec ma petite sœur. Semblant de ne pas entendre ma mère pleurer tous les soirs au bout du couloir. Tout va revenir à la normale. Mais je ne crois pas que moi, je redeviendrai un jour normal. Certains jours, quand ça va vraiment mal, mon père m'emmène chez Rita, à 2 heures de route. Je fends du bois, j'arrache les mauvaises herbes, je tonds sa pelouse. Elle ne se déplace plus trop bien à cause de sa hanche, alors un peu d'aide n'est jamais de refus. Et le mieux, c'est qu'elle ne me pose jamais de questions. Elle me confie des travaux, me houspille. Rita est toujours Rita. Peut-être qu'elle n'est pas normale, elle non plus. Et ça me plaît. Parfois, pendant que je fiche la raclée au pissenlit, je m'aperçois que je suis en train de parler. Que plein de choses sortent. Alors je travaille plus dur. Je parle plus vite. Rita me donne plus de citronnade. Et tout va bien quand Rita est là. Quand elle est là, je me sens en sécurité. Des fois, je suis encore en train de déblatérer quand mon père revient. Alors il fend du bois, arrache les mauvaises herbes, repeint les barreaux de la balustrade, et je peux bien dire que Rita a la plus jolie maison du quartier. C'est le moins qu'elle mérite, vous savez. J'aimerais pouvoir rester toujours avec elle. Mais tôt ou tard, il faut rentrer à la maison. Tout va revenir à la normale. Je ne dors pas. Derrière mes paupières fermées, je vois des choses que je ne pense pas que les autres garçons voient. Je sais des choses que je ne pense pas que les autres garçons savent. Aller à l'école est inimaginable. Traîner avec mes anciens copains est inimaginable. Je joue à la poupée avec ma petite sœur. Je fais tout ce qu'elle me dit. Je vois ça comme un entraînement. Un jour ou l'autre, je saurai être une petite fille de 6 ans. Ça paraît une bien meilleure idée que d'être moi. Ma maman m'emmène chez un thérapeute. Je dessine des arcs-en-ciel et des fleurs, et il me regarde d'un air profondément déçu. Alors je dessine des petits osios et des chatons, des poissons rouges et des licornes. Quand je raconte tout ça à Rita, ça la fait rigoler, mais je vois bien qu'elle est inquiète. Parfois, quand ça va vraiment mal, on se contente de faire de la balancelle sur sa terrasse, et elle me tient la main. « Tu es fort, mon enfant, » me dit-elle. « Tu es solide, malin et débrouillard. Ne le laisse pas te prendre ça, ne lui donne pas ça. » Je promets à Rita, et nous nous pardonnons tous les deux ce mensonge. Rita a vécu jusqu'à un âge avancé. Elle est morte en janvier. Je suis venue ce samedi-là et je l'ai trouvée assise dans le salon, un bras passé dans le vieux manteau de sa mère. Joseph était assis à côté d'elle. C'était la première fois que je le voyais. Dès que j'ai ouvert la porte, il a levé les yeux vers moi, a souri et a disparu. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement. Rita a eu une belle mort, paisible. Ça m'a donné ma première lueur d'espoir. Un jour, je vais mourir comme ça, assis dans mon canapé, juste sur le point de franchir la porte. J'aime penser que Rita gambade avec Joseph maintenant, qu'il tourne en rond autour du vieux pommier. J'aime penser qu'elle veille sur moi. Je n'ai pas réussi à l'école publique. J'ai essayé d'être un vrai petit garçon, mais je n'en suis pas un, vous savez. Un élève a commencé à s'en prendre à moi, à me traiter de pédé. À dire à tout le monde que j'aimais sucer les bites. Et puis il a fait des bruits avec sa langue à chaque fois que je passais dans les couloirs. Il était costaud. Je suis trop petit pour m'attaquer à quelqu'un de sa taille. Et il le savait. J'en ai parlé à mon père. Il a fait tout un foin. L'autre a été suspendu. Ça m'a valu 5 jours de répit avec un élève et plein d'ennuis avec un paquet d'autres. Bientôt, toute l'école a fait des bruits de succion chaque fois que j'entrais dans la cantine. Les enfants ne m'aiment pas, je le sais. Ils me regardent en se demandant ce qui s'est passé, en se demandant si ça va leur arriver. Je leur fais peur, et aucun adulte n'y changera jamais rien. Maintenant, je vais dans une école privée, avec des classes réduites, de nombreuses figures d'autorité pour que nous filions droit. Je ne me donne pas la peine de me faire des amis. J'attends juste que la journée se passe. C'est la seule chose pour laquelle je suis douée. Attendre que ça se passe. Ma sœur m'adore. C'est la seule personne au monde qui me prenne dans ses bras sans s'arrêter d'abord pour se demander si elle doit le faire. Elle se jette direct sur moi. « Joshi !» s'écrie-t-elle. « Joshi est rentré !» Et il y a des jours où je me dis que j'ai survécu à tout ça, rien que pour l'entendre dire ces mots. J'ai mes bons moments. Pas beaucoup, mais quand même. Des fois où c'est presque acceptable d'être moi. Alors je m'accroche à ça parce qu'il faut bien que je m'accroche à quelque chose. Il faut que j'essaie d'être quelque chose. Ou alors Rita a raison, il a gagné. Même dans la tombe, il m'a dépossédé de moi-même. Je ne l'accepterai pas. Jamais. Je l'ai tué une fois. J'espère bien qu'il est mort pour toujours. Et puis une nuit, j'ai eu une révélation. Je n'arrivais pas à dormir. Des pensées sanglantes me rendaient fou. Je détestais mes vêtements, ma chambre, la sensation de la moquette contre ma peau. Je détestais les murs de la maison et la fenêtre qui me regardaient comme un œil aveugle. Je détestais ma mère et mon père, qui ne cessaient de m'observer, comme si j'allais être rétablie d'un instant à l'autre, alors que s'ils avaient fait leur boulot correctement, jamais je n'aurais été détraquée. Alors je suis allée chercher des allumettes dans la cuisine, mais en chemin, au milieu du salon, je l'ai vu. L'ordinateur. Je me suis souvenue de choses. Des choses que je n'avais jamais racontées à la police. Je me suis assise. Il ne m'a pas fallu longtemps pour les trouver. Ou plutôt pour leur faire croire qu'ils m'avaient trouvée. Je suis restée 3 heures devant le clavier, à faire ce qu'il fallait faire, à dire ce qu'il fallait dire. Je sais comment fonctionnent ces types. À 5 heures du matin, j'ai entendu mon père se lever pour aller aux toilettes. Alors j'ai éteint l'ordinateur, je suis retournée discrètement dans ma chambre et je me suis effondrée sur mon lit. Quand je me suis réveillée, je savais ce que j'allais faire. J'ai pris quelques cours, j'ai fait quelques recherches et ça a suffi pour le reste. Je vais sur le net 3 nuits par semaine maintenant, toujours après minuit. Et je pars à la chasse. L'agent spécial Salvatore Martignetti. Il a réintégré le JBI dans une brigade de lutte antidrogue. Je peux trouver des citations de lui au sujet de ses dernières arrestations, de ses heures de gloire. Je peux trouver sa photo, le visage grave, les yeux enfoncés. Parfois, si la pose est la bonne, il ressemble tellement à Dean Ekara que j'ai envie de balancer mon poing à travers l'écran. Mais je ne le fais pas. L'agent spécial Kimberly Quincy. Elle a repris le travail, mais ses missions sont plus difficiles à suivre. Le FBI a plus de jugeotes pour ces choses-là. Alors j'ai retrouvé sa fille à la place. La petite Elisa Amanda McCormack, inscrite à la maternelle Montessori de la ville. Toute la liste des élèves est accessible en ligne. Sur la page, on lit « réservé aux parents », mais il ne m'a fallu que 3 essais pour deviner le mot de passe, les initiales de la directrice. C'est fou le nombre d'organismes qui croient se protéger alors qu'en réalité, ils font juste rigoler les gens comme moi. Ginny Jones. Elle est à la prison d'État où elle finit de purger sa peine de 12 ans de réclusion. Les jurés ne résistent pas à une jeune victime enceinte et ils ne l'ont jugée coupable que de complicité d'enlèvement. Je ne sais pas où est allé le bébé, mais laissez-moi un peu de temps, je vais trouver. En attendant, Ginny a couché avec suffisamment de gardiens de prison pour avoir accès à un ordinateur. Alors je me suis fait passer pour son tout nouveau correspondant sur Internet. Il lui tarde de me rencontrer un jour. Croyez-moi, c'est réciproque. Je suis patient, attentif, observateur. Juste une araignée sur le mur, vous voyez, qui tisse lentement sa toile. Après m'être rencardée sur mes anciens acolytes, je passe au vrai clou de la soirée. Je vais sur les sites, les blogs, les forums. Je me fais de nouveaux amis et je raconte à ces types tout ce que je sais faire. Je leur promets de l'action, je leur promets du direct. Il me faut juste une petite information pour commencer, et quand je l'ai, je frappe. Je vide leur compte en banque. Je tire au maximum sur leur carte de crédit, et j'en prends de nouvelles à leur nom. Je souscris des hypothèques de second rang auprès de banques en ligne, et j'ouvre des lignes de crédit. Je deviens eux. J'usurpe leur identité. Et je vire tout leur argent au centre pour les enfants disparus et exploités. Des milliers de dollars. Des dizaines de milliers de dollars. Des centaines de milliers de dollars. Je prends tout. C'est tout ce qu'ils méritent. Ils pourraient porter plainte, bien sûr. Il leur suffirait d'ouvrir leurs archives financières, y compris en ce qui concerne leurs activités en ligne, à leur épouse, leurs associés, la police. Je me demande ce que ça leur fait quand ils comprennent enfin ce qui se passe. Que ces débits sur leur carte de crédit ne sont pas une erreur. Que ces messages de leur compte PayPal signalant une activité inhabituelle ne sont pas des canulars. Que leur compte courant est vide et que le plafond de cette nouvelle ligne de crédit, là, a déjà été atteint. Je me demande ce que ça leur fait quand ils comprennent qu'ils n'ont aucun recours, que leur maison va être saisie, leur toute nouvelle voiture confisquée, que leurs comptes en banque sont gelés, leurs cartes de crédit plafonnées. Quant à leurs activités sur Internet, eh, personne ne va laisser un connard fauché télécharger de la pornographie enfantine. Je me demande ce que ça leur fait quand ils comprennent qu'ils sont finis, foutus, lessivés. Quand ils comprennent qu'ils seront pour le restant de leur jour un spécimen de la collection.